Voilà, donc effectivement, Françoise, merci, tu as failli animer, faire une introduction de 2h30 et on est arrivé juste limite, hein, juste le temps de mettre en place ce PowerPoint et donc de vous présenter pour démarrer ce stage une position un peu institutionnelle. Alors on était quelques-uns à préparer l'organisation de ce stage, tu en as décrit la genèse à l'instant. A émergé assez rapidement l'idée qui consistait à dire que sans doute il fallait démarrer ce regroupement par la position de l'institution, non pas peut-être pour évacuer cette question et ne plus en parler par la suite, mais plutôt d'essayer de mesurer à un moment donné les écarts entre la prescription et ce que l'on va pouvoir constater après sur le terrain dans l'ordinaire de la classe. Ouh là là. Tout va bien, on a sauvé l'essentiel. Donc sur cette idée qui consistait finalement à présenter la prescription avec en essayant de mesurer le décalage par rapport à ce qu'on va constater sur le terrain, donc mes petits camarades m'ont gentiment laissé la parole, bien que je ne sois pas évidemment le seul à pouvoir porter la position institutionnelle, je pense notamment à la DGESCO qui est là aussi, qui pourra éventuellement compléter mes propos. Alors dans cette logique-là, simplement sur la thématique de la nouvelle professionnalité en rare, moi ce que je vais présenter, je ne vais surtout pas vous faire l'exégèse de la circulaire du 30 mars 2006 que vous, sans doute, vous devez connaître, mais ce n'est pas du tout là mes propos. Je vais essayer d'élargir mes propos à la fois à d'autres types de personnel que les enseignants en réseau Ambition Réussite, mais également évoquer plus globalement l'éducation prioritaire, c'est-à-dire à la fois les réseaux Ambition Réussite, mais aussi les réseaux de réussite scolaire, ce qu'on a coutume d'appeler le P2, hein, pour parler plus globalement de l'ensemble de l'éducation prioritaire. Puisque peut-être un des premiers principes qui émergent de cette nouvelle professionnalité, c'est la notion de réseau, c'est-à-dire l'articulation inter-degré. Je crois qu'autour de cette table, je n'ai pas assisté aux présentations, mais je crois savoir qu'il y a des personnels enseignants, mais aussi des personnels qui ont en charge le pilotage des réseaux plus globalement. Cette notion de réseau est quelque chose de particulièrement important, et également, par voie de conséquence, la notion de comité exécutif, qui est une sorte de conseil pédagogique à l'échelle du réseau, qui est véritablement une instance qui permet la régulation et la prise de décision à l'intérieur des réseaux. Donc pour donner la position institutionnelle, ce que j'ai choisi de vous présenter, c'est la photographie de l'éducation prioritaire dans l'Académie Next Marseille, puisque nous sortons d'une évaluation intermédiaire des contrats de réseau pour environ 60 réseaux dans l'Académie Next Marseille, donc ça représente quand même quelque chose. Et donc notre recteur a souhaité mettre en place une évaluation intermédiaire de ces contrats de réseau afin d'essayer de réguler un petit peu le fonctionnement de ces réseaux. Donc je vais vous présenter quelques éléments de cette synthèse que vous pourrez retrouver d'ailleurs totalement si vous êtes intéressé sur le site de l'éducation prioritaire de l'Académie Next Marseille. Mais donc, plutôt pour vous dire, voilà, quel est le regard que l'institution rectorat porte sur le fonctionnement de l'éducation prioritaire dans notre académie. Vous savez bien que quand on prend une photo, eh bien, peut-être qu'on montre ce qu'on a envie de montrer aussi, hein, donc c'est forcément aussi au travers de la focale de l'institution que je vais vous présenter quelques éléments comme étant repérés de la nouvelle professionnalité en réseau Ambition Réussite. Voilà, alors simplement vous découvrez sur cette première diapositive le poids de l'éducation prioritaire dans une académie comme la nôtre, qui représente donc une trentaine de réseaux Ambition Réussite et une trentaine de réseaux de réussite scolaire, ce qui correspond à quand même 30% des collégiens de notre académie, donc c'est pas rien, ça représente quelque chose, et donc c'est là, ça donne une certaine légitimité aux informations qu'on a pu recueillir à l'occasion de cette évaluation. Donc le texte de référence, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la circulaire du 30 mars 2006 qui définit les principes de fonctionnement de l'éducation prioritaire. Vous pourrez vous y référer si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Donc il s'agissait simplement d'une évaluation à mi-parcours, sachant que tous les réseaux de notre académie ont signé des contrats pour une durée de 4 ans. en faisant apparaître des objectifs prioritaires à poursuivre. Et donc, cette évaluation est arrivée à mi-parcours pour essayer de comprendre quels étaient les axes pris et éventuellement proposer un certain nombre de régulations. Alors, très vite sur la démarche, comment on a procédé? On a mis en place un comité de pilotage avec la réalisation d'outils de mesure. Ces outils de mesure sont évidemment annexés à ce rapport de synthèse. Nous avons provoqué un comité exécutif exceptionnel dans l'ensemble de ces réseaux pour passer une commande vis-à-vis de l'outil qu'on avait proposé à l'intérieur des réseaux. Ensuite, les réseaux nous ont renvoyé ce document et nous avons constitué une commission de lecture qui a analysé les résultats de ces documents et les propositions de régulation qui étaient faites par les réseaux eux-mêmes. Donc on était dans une logique d'abord d'analyse des résultats, mais je dirais prioritairement d'auto-régulation, c'est-à-dire qu'on a fait l'hypothèse que le fait de poser un certain nombre de questions allait provoquer une prise de conscience des acteurs des réseaux. Autrement dit, à la fin de ce document, il y avait la question suivante: les acteurs du réseau estiment-ils nécessaire de procéder à un certain nombre de régulations par rapport aux axes prioritaires qu'ils avaient retenus dans leur contrat de réseau? Alors, très rapidement, une photographie des moyens accordés à l'éducation prioritaire dans notre académie. Tout d'abord, un regard sur les professeurs référents. Si la première année, on s'était aperçu qu'il y avait un mouvement assez important des professeurs référents, donc qui ne souhaitaient pas poursuivre leur mission à l'intérieur des réseaux, on s'aperçoit à l'issue de la deuxième année qu'il y a une plus grande stabilité des moyens ambition réussite, des professeurs supplémentaires, sur laquelle évidemment on peut s'appuyer, une stabilité plus importante, puisque pour les 123 et demi professeurs référents de notre académie, nous avons seuls 13% d'entre eux qui ont souhaité changer d'affectation. Donc on était là, on pouvait s'appuyer sur quelque chose, une plus grande stabilité dans la mise en œuvre des actions dans les réseaux. On s'aperçoit en regardant ces moyens que un tiers des moyens ont été attribués aux lettres globalement, un tiers sur les sciences, et puis ensuite un certain nombre de disciplines beaucoup plus marginales, moins représentatives des choix qui ont été opérés à l'intérieur des réseaux pour ces fameux professeurs référents supplémentaires, avec très peu, par exemple, je citais l'éducation musicale ou les arts, par exemple, qui sont sous-représentés, et également dans notre académie, le premier degré qui est extrêmement peu représenté, ce qui est une tendance très importante qui est ressortie de notre analyse, ce qui nous a permis d'ailleurs de proposer à notre recteur d'équilibrer un petit peu cette donnée, puisque quand on parle de réseau, évidemment, il est nécessaire d'avoir des acteurs qui sont également positionnés dans le premier degré. D'autant que cette donnée-là ne se retrouve pas forcément dans d'autres académies. Pour les quelques connaissances que j'ai, certaines académies ont fait le choix d'attribuer des moyens en professeur référent davantage sur le premier degré. Autre donnée sur la question des moyens, on s'aperçoit que pratiquement tous les réseaux ciblent l'objectif de développement des conduites sociales et citoyennes, et en même temps, pratiquement aucun, de manière explicite, attribue des moyens ou des parties de moyens dans les missions des professeurs référents sur cette donnée. Donc là, il y a une sorte de paradoxe apparent que l'on a également souligné. Alors sur le degré d'atteinte des objectifs du réseau, donc comme je vous le disais précédemment, vous devez le savoir, l'ensemble de ces réseaux ont contractualisé avec les autorités académiques et rectorales sur un certain nombre d'objectifs. Alors en gros, on le voit pas bien, c'est en rouge, il y a trois grandes familles d'objectifs. Un objectif bien souvent lié à l'atteinte des compétences de la maîtrise de la langue. Deuxième famille d'objectifs liée à l'atteinte des compétences du socle commun, et une troisième grande famille d'objectifs qui renvoie plutôt à l'acquisition des conduites sociales. Donc on a grosso modo ces trois grandes familles d'objectifs dans les contrats de réseau, et on s'aperçoit donc les premières tendances qu'on peut relever à l'issue de cette évaluation, c'est que finalement tous les réseaux à un moment ou à un autre progressent sur l'un des trois objectifs de ces réseaux, mais aucun des 60 réseaux de l'éducation prioritaire de notre académie ne progresse de manière significative sur les trois objectifs, ce qui nous laisse évidemment une marge de progrès, mais qui aussi peut nous faire penser qu'il y a des stratégies de choix qui sont opérées, et donc on peut réfléchir à cette donnée qui paraît relativement intéressante. On s'aperçoit que un réseau sur deux signale d'une manière ou d'une autre une dégradation importante du climat social, sans pour autant que les acteurs eux-mêmes disent que la situation est hors contrôle, mais en même temps c'est une donnée qui est évidemment à prendre en considération. Alors, on s'aperçoit également sur l'analyse des résultats transmis dans ce document que pratiquement jamais les réseaux ne progressent à la fois sur le volet scientifique et sur le volet maîtrise de la langue. Hein, si je reprends un peu la thématique que j'évoquais en tout début. Donc, il y a des choix qui sont opérés où il y a des difficultés peut-être à tenir plusieurs lèvres à la fois. Donc c'est une tendance également macroscopique qui se dégage de cette analyse. Et également, j'y reviendrai plus tard, la question du taux de réussite au brevet qui est significativement augmenté dans ces réseaux de l'éducation prioritaire, sans pour autant qu'on puisse constater de réelles évolutions dans le pourcentage d'orientation en seconde générale et technologique. Voire en première, 2 ans après, c'est-à-dire une orientation en lycée véritablement bénéfique. Donc il y a une sorte également de paradoxe apparent, des meilleurs résultats au brevet, de façon très nette hein, de ce point de vue-là, et l'orientation qui stagne, comme s'il y avait aussi une sorte d'impuissance admise par l'ensemble des acteurs qui semblait dire que de toute façon les élèves des réseaux ambition réussite n'avaient pas forcément la capacité à réussir dans les études générales. Alors tout ça amène à renforcer l'idée, on essaie peut-être de lancer déjà quelques premières pistes de cette nouvelle professionnalité, l'idée forte de cette notion de pilotage partagé qu'on met souvent en avant, peut-être à 3 niveaux. Le premier niveau qui consiste à évoquer le niveau de la classe, c'est-à-dire dire et réaffirmer que l'essentiel se joue finalement à l'intérieur et dans l'ordinaire de la classe, que ce soit par l'intermédiaire des enseignants référents, de tous les enseignants, mais aussi, pourquoi pas, sur des thématiques de co-intervention, assistants pédagogiques notamment. L'échelon comité exécutif, où là, on repère l'idée qui consiste à finalement laisser cette marge d'autonomie et de liberté à l'intérieur des réseaux, dans la stratégie des choix mis en avant. Peut-être également ouvrir davantage un peu ces comités exécutifs à des personnes qui ne sont pas prévues participer au départ à cette instance-là. Et puis l'échelon du réseau, j'en parlais en introduction avec cette idée qui consiste à renforcer un véritable pilotage de réseau, mais un vrai réseau, c'est-à-dire un rapprochement notamment du premier et du second degré avec les corps d'inspection IUN, IAIPR, qui ne sont pas véritablement habitués à travailler ensemble, notamment, et puis évidemment le principal de collège et enseignant premier et second degré. Donc cette dimension de réseau qu'on a l'habitude d'évoquer depuis bien des années, on s'aperçoit qu'à certains égards, elle n'est pas encore bien opérationnelle dans le fonctionnement quotidien des réseaux d'éducation prioritaire, tout au moins, je parle moi pour l'Académie d'Aix-Marseille. Alors, quelques pistes et éléments de réflexion de cette nouvelle professionnalité, donc 4 ou 5 pistes qui émergent et qui ont fait l'objet d'un travail, d'un séminaire il y a quelques semaines à Marseille où l'ensemble des acteurs de ce séminaire ont réfléchi sur ces grandes questions. Je vais les reprendre une par une hein, pour développer un petit peu ces idées. D'abord la question du pilotage par les résultats, la question du fonctionnement des comités exécutifs, la question de la mise en cohérence de l'ensemble des dispositifs d'aide à la difficulté, ils sont nombreux, parfois se recoupent, voire se concurrencent, la question de la vie scolaire et la question de la formation continue. Donc je reviens sur ces 5 points pour terminer mes propos, avant de laisser la parole à ma collègue et néanmoins amie Christine Félix. Premier élément, la question du pilotage par les résultats doit encore s'affirmer. Donc là, c'est pas une nouveauté quand on dit ça, c'est-à-dire que on a finalement le sentiment au regard des données qu'on a recueillies qu'il y a nécessité de faire en sorte que les gens utilisent, les acteurs utilisent au quotidien des points de repère qui vont guider l'ensemble de leur stratégie d'enseignement. On pense notamment aux points de repère donnés par les résultats aux évaluations nationales. On pense aux résultats au DNB. Donc cette idée, cette formule désormais célèbre, mais qui moi je pense assez parlante, c'est-à-dire rendre des comptes pour mieux se rendre compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va demander aux acteurs de rendre des comptes sur les choix qu'ils ont opérés à l'intérieur des classes au service des élèves en difficulté, mais en même temps ça permet un certain nombre de prises de conscience pour dire finalement le pourcentage d'élèves en très grande difficulté dans ce réseau-là nous impose quelque part d'avoir une autre stratégie d'entrée dans la démarche de remédiation, par exemple dans l'utilisation des PPRE par exemple. Et la question de l'orientation, j'en ai dit deux mots, bien qu'il faille prendre ça avec beaucoup de prudence, mais c'est vrai que peut-être que l'indicateur plus intéressant serait combien il y a d'élèves issus de troisième qui, deux ans après, rentrent en première générale, par exemple, donc en gros, une orientation réussie, et donc ces éléments-là qui peuvent aussi interroger nos pratiques d'orientation. Alors le deuxième élément, c'est la question de l'accompagnement des comités exécutifs. Je rappelle que cette instance est un véritable organe de pilotage et qui permet de réguler les actions, qui permet de réinterroger les missions des professeurs référents, qui permet d'infléchir des choix, de créer de la communication. Et bien, dans cette instance qu'est le comité exécutif, eh bien, il y a peut-être nécessité, au regard de ce qui nous est remonté, d'ouvrir davantage ces comités exécutifs. Il y a évidemment des personnes qui sont de droit, mais il n'est pas dit qu'on puisse pas ouvrir à un moment donné à d'autres enseignants qui auraient à un moment donné des choses à dire sur une thématique qui serait abordée, sur la question des évaluations sixième par exemple. Donc travailler sur différents formats de comités exécutifs, des comités exécutifs restreints, des comités exécutifs élargis, voire regroupés à plusieurs réseaux. Et nous avons travaillé depuis pas mal de temps maintenant sur un outil d'aide à la décision dans ces comités exécutifs, un livret d'accompagnement de ces comités exécutifs qui est au jour d'aujourd'hui dans une version relativement avancée et qui devrait faire l'objet d'une expérimentation dans quelques réseaux dans notre académie. Si on a un peu de temps, je pourrais éventuellement en dire deux mots ou le présenter à quelques-uns. Mais on a, si vous voulez, dans cette réflexion-là, penser qu'il était nécessaire de produire un outil permettant de se poser les bonnes questions, en gros. Hein. C'est-à-dire à la fois d'avoir des repères, des indicateurs permettant de savoir où en aller, une sorte de tableau de bord, mais aussi de se poser des bonnes questions pour induire une dynamique à l'intérieur de ce comité exécutif et de proposer, évidemment, des régulations, des évolutions dans les décisions qui sont prises à l'intérieur des réseaux.
Ça marche plus, ça.
Ah, voilà. Bon, la question de la mise en cohérence des différents dispositifs d'aide à la scolarité, c'est aussi une question qui revient très largement dans beaucoup de questionnements des acteurs de l'éducation prioritaire. Au jour d'aujourd'hui, on a un nombre impressionnant de dispositifs qui sont pas toujours clairs pour tout le monde et qui parfois se recoupent sur leur champ d'investigation. Et donc là, les exemples ne manquent pas. Sans doute serait-il nécessaire, et c'est ce que les acteurs nous demandent également, d'arriver à mettre un petit peu de clarté dans l'ensemble des dispositifs d'aide à la scolarité, qui soient de l'ordre de l'accompagnement éducatif, du soutien, du tutorat, voire des PPRE. Bref, on a aujourd'hui cette nécessité de mettre en synergie, voire en cohérence, certains dispositifs d'aide à la scolarité pour finalement arriver à prendre la question de la différenciation pédagogique par le bon bout, pour pas sombrer dans ce que Anne Armand appelle la pédagogie de la lenteur, c'est-à-dire finalement une sorte de différenciation tellement déclinée qu'elle en devient plus efficace. Donc on a aussi une réflexion à mener, et c'est véritablement ce qui remonte de nos évaluations avec certains réseaux qui font appel à une multitude de dispositifs sans véritablement comprendre qui fait quoi et à quoi sert tel et tel dispositif. Je pense que dans les deux jours qui vont venir, on aura l'occasion d'évoquer ces questions à de multiples reprises. La question de la vie scolaire est également aussi un baromètre particulièrement important de la dynamique des réseaux. Donc certains acteurs de réseau émettent certaines inquiétudes vis-à-vis de la montée de la violence, voire des incivilités, avec des indicateurs qui peuvent montrer à certains endroits que ces phénomènes d'incivilité ont tendance à concerner de plus en plus de publics jeunes. Et donc là, il y a un véritable questionnement, avec bien sûr des solutions qui sont trouvées à l'intérieur des réseaux sur des dispositifs d'inclusion-exclusion relativement fréquents, un travail de fond avec les familles, et en même temps cette nécessité d'intégrer ça dans les priorités des réseaux et de mettre des missions en face de ces préoccupations. Un autre élément là que je souligne dans cette diapo qui consiste le turnover important des AED, qui est aussi signalé par souvent les chefs d'établissement, qui ont du mal à s'appuyer sur une stabilité de ces personnels-là à gérer notamment les questions de vie scolaire. Et le dernier élément renvoie à la formation continue davantage des cloisonnés. Là aussi, un des constats qui émane de cette sorte de nouvelle professionnalité qu'on va questionner pendant ces deux jours, c'est la diversité et la multiplicité des dispositifs de formation extrêmement nombreux. Alors on peut avoir des formations qui sont à public désigné, des formations de bassin, des formations donc sur les professeurs référents, des formations maîtrise de la langue, des formations interdegrés. Alors on parle de réseau, on parle de circonscription, on parle de et donc finalement on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'incohérence, parfois de concurrence entre certains dispositifs. Et semble-t-il, si cette nouvelle professionnalité renvoie à la notion de réseau, sans doute faut-il s'interroger à un moment donné sur une formation spécifique de réseau. Alors dans notre académie, ça j'ai pas de données sur les autres académies, nous avons un dispositif qu'on appelle le PFE, c'est-à-dire le plan de formation d'établissement, où finalement les établissements eux-mêmes définissent un besoin de formation au regard des caractéristiques de leur public. Nous avons proposé dans notre académie un équivalent à ce PFE qu'on aurait pu appeler le PFR, c'est-à-dire le plan de formation de réseau, qui permettrait autour des différents pilotes des réseaux de l'éducation prioritaire, je pense au principal et à l'IEN co-responsable du réseau, mais également à l'IAIPR référent pour le P1 et au secrétaire de comité exécutif, voire élargi à d'autres personnes qui ont des choses à dire sur cette question. Et on pourrait, à cet égard, définir des grandes priorités de formation qui répondent véritablement aux besoins du réseau en termes de, par exemple, de maîtrise de la langue, parce qu'il y a des caractéristiques particulières dans un réseau avec un pourcentage très important de primo-arrivants, que sais-je. On a nous avons 32 réseaux mission réussite dans notre académie. Il y a des situations extrêmement diverses et vraisemblablement, peut-on imaginer que chaque réseau puisse définir un plan qui lui est propre. Alors c'est aussi dans cet esprit, moi, que je suis intéressé par cette formation ici à l'NRP, parce que on a besoin de ce type de ressources qui puissent s'adresser à l'ensemble des acteurs de l'éducation prioritaire et pas seulement les enseignants, comme je le disais en préalable. Et puis la question de l'article 34 de la loi, on s'aperçoit que même si la loi d'orientation préconise le recours important à l'innovation, quand tout le reste a été épuisé, n'a-t-il pas nécessité de penser autrement les interventions? Eh bien, on s'aperçoit que dans le réseau de l'éducation prioritaire, cette possibilité est très très peu souvent sollicitée. Voilà, donc j'en ai terminé. Je dis juste deux mots pour vous dire qu'à l'issue de cette photographie académique importante que vous pouvez retrouver sur le site, on a finalement, quand on ouvre une boîte, il y a toujours un autre tiroir qui s'ouvre, et puis constamment on ouvre une boîte, il y a un dossier, etc. Et donc est ressorti de ces grandes conclusions l'idée que il fallait accompagner peut-être les comités exécutifs par un outil qui permettait de poser toute une série de questions qui ont émané de cette synthèse. Et donc cet outil-là existe dans une version non achevée, comme je le disais tout à l'heure. En gros, il y a des indicateurs de pilotage ciblé sur des choses extrêmement précises, sur le taux de les évaluations aux examens par exemple, mais pas seulement, avec l'idée qu'il fallait pointer à la fois des éléments qui relevaient de difficultés d'élèves, mais aussi des éléments extrêmement positifs. On s'aperçoit que dans certains réseaux, on peut avoir des grandes difficultés en maîtrise de la langue avec des pourcentages de réussite en mathématiques nettement supérieurs à la moyenne académique, hein, j'entends. Hein. Donc on a des contrastes comme ça sur lesquels on peut jouer, et donc pas uniquement pointer ce qui va mal, mais aussi pointer les ressources potentielles des élèves du réseau. Ensuite, un axe de questionnement des grandes questions qui doivent, semble-t-il, organiser une partie de la réflexion, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que les acteurs de l'éducation prioritaire de ce réseau font pour les élèves en grande difficulté, par exemple, hein. Qu'est-ce qu'on fait très concrètement pour, si on a 28% d'élèves en très grande difficulté à l'entrée en sixième, qu'est-ce que dans nos actions menées à l'intérieur du réseau, qu'est-ce qu'on organise très concrètement pour cette catégorie-là d'élèves? En quoi, finalement, ces éléments-là permettent d'intégrer l'ordinaire de la classe? Deuxième question, hein, parce qu'on a parlé beaucoup de périphérie avec les dispositifs d'aide à la scolarité, et on a tendance aussi souvent à confier le traitement de la difficulté à des personnels qui sont un peu extérieurs à la classe. Donc, en quoi les décisions du réseau renvoient à l'ordinaire de la classe? Question extrêmement importante. En quoi ces décisions-là renvoient à une logique de réseau? Troisième question. Donc, parce que souvent, on a aussi des réseaux qui, extérieurement, fonctionnent très bien, mais en fait, on s'aperçoit que c'est plus une logique collège et pas une logique réseau quand on creuse un petit peu. Donc, voilà, deuxième partie de ce livret, un axe de questionnement, de questions essentielles pour un peu orienter, finalement, les échanges du comité exécutif. Et puis, pour finir, un document d'aide à la régulation, c'est-à-dire finalement, compte tenu du questionnement, de l'échange qu'on a eu, qu'est-ce qu'on peut proposer comme modification, comme régulation dans les grandes décisions de mise en œuvre de dispositifs à l'intérieur du réseau, et comment, en cascade, ça induit des modifications dans les lettres de mission des professeurs référents, puisque je rappelle que le comité exécutif est chargé de faire évoluer ces lettres de mission des professeurs référents notamment. Et puis, finalement, en quoi l'ensemble des échanges peut déboucher sur une demande de formation de réseau spécifique à ce réseau lui-même, compte tenu des difficultés que les acteurs rencontrent à l'intérieur de ce réseau. Voilà un peu l'esprit de ce document. Peut-être que certains d'entre vous seront intéressés pour y jeter un œil. Voilà ce que je voulais dire très rapidement pour finalement donner ce regard que l'on a porté, nous, vis-à-vis du fonctionnement de l'éducation prioritaire de notre académie. Maintenant, je laisse Christine évoquer des questions plus pour entrer dans le vif du sujet de la recherche. Merci de votre attention.